L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 5 août 1952. Il est 7h30. Il fait encore relativement frais à Lurce, petit village provençal situé dans la vallée de la Durance, à 600 mètres d'altitude. Les deux gendarmes en képi et par-dessus qui longent le bord de la Nationale 96 qui relie Château-Arnoux à Aix-en-Provence tentent de ne pas trop mouiller leurs bottes dans l'herbe encore trempée par la rosée matinale. Le soleil ne s'est pas tout à fait levé en cette matinée d'été et il fait encore brumeux sur les montagnes provençales. Les deux gendarmes ont été alertés une demi-heure plus tôt par un paysan du coin qui leur avait dit de ne pas trop traîner. Et en effet, quelle ne fut pas la surprise des deux policiers en se retrouvant nez à nez avec deux cadavres gisant sur le bord de la route à quelques mètres d'une voiture garée. Il est 7h30. C'est leur H de mon histoire. Il ne faut pas attendre bien longtemps avant l'arrivée sur les lieux du crime du commissaire Edmond Sébeille, de la 9e brigade de Marseille. Ce grand Provençal, à l'allure élégante, au crâne dégarni et au rouflaqué de charnue, ne porte lui pas le képi. Il arbore un trench coat couleur mastic et un long pantalon en tweed. Immédiatement, le commissaire fait évacuer la scène du crime. En effet, en l'espace de quelques dizaines de minutes, Badeau et premier journaliste se sont rués sur les bords de la Nationale 96 pour s'assurer de la véracité de la rumeur qui court dans toute la ville. Un couple de touristes a été assassiné. Le commissaire commence par sécuriser la scène du crime en exigeant de ses hommes qu'ils mettent en place un périmètre de sécurité autour des deux cadavres. Il demande ensuite que l'on joigne le médecin légiste. Son deuxième réflexe est d'examiner lui-même la scène du crime. En bordure de route donc, une petite voiture est stationnée sous un mûrier. À peine à 5 mètres de cette Hillman vert amande se trouve le cadavre d'une femme d'une quarantaine d'années. Son corps est à moitié recouvert d'une couverture qui camoufle une partie de son visage. De l'autre côté de la voiture, le corps d'un homme jonche le macadam. Il doit avoir une bonne soixantaine, se dit le commissaire Sébeille. Les deux corps sont chacun criblés de 3 balles au niveau de la poitrine. Tout autour d'eux, munitions et cartouches sont éparpillées le long de la route. Le commissaire se retourne alors vers les deux gendarmes ayant découvert les corps. Alors, messieurs, comment êtes-vous tombés de si bon matin sur ces deux macabées sur le bord de la Nationale ? Ben, on nous avait prévenus, commissaire. On faisait une ronde à Lurce ce matin quand le boulanger nous a dit qu'il avait entendu parler de cadavres sur la route, près de la ferme de la Grande Terre, lui répond l'un des deux gendarmes. Mais qui diable a bien pu prévenir ce boulanger, hein ? Réplique le commissaire Sébeille. Ah ben c'est moi qui avais prévenu le boulanger ! S'exclame une voix dans la foule de Badeau qui encercle la scène du crime. Le commissaire Sébeille n'avait pas remarqué la présence en arrivant de ce petit homme robuste, d'une trentaine d'années aux allures de fermier. Vêtu d'un débardeur blanc noirci par la terre et le cambouis, l'homme se tient un peu à l'écart du petit groupe de curieux et de journalistes. En entendant ces mots, le commissaire se retourne et fait écarter la foule pour se diriger jusqu'à son interlocuteur. « Eh bien, mon vieux, vous n'auriez pas pu le dire plus tôt. Vous avez l'air de considérer qu'il s'agit d'un banal accident. Alors vous, ça vous inquiète pas qu'un criminel parcourt les routes et abatte froidement les gens du pays ?»« Eh bien, si vous voulez mon opinion, commissaire, ces deux malheureux ne sont pas plus provençaux que vous n'êtes observateur. » lui réplique dédaigneusement le fermier. Avant même de laisser le temps au commissaire de lui répondre, il pointe du doigt la plaque d'immatriculation de la Hillman verte. Le commissaire Sébeille se retourne et constate par lui-même que l'automobile est immatriculée NNK-686-GB. Ouais. Et une plaque anglaise, se dit-il. Il se retourne alors vers le fermier et lui lance. « M'avez l'air bien informé, mon vieux. Vous avez peut-être d'autres informations à nous fournir ?» L'homme esquisse un demi-sourire. Il fixe Le commissaire s'éveille et lui répond tranquillement « Suivez-moi ». Il se met en direction d'un petit pont situé à une centaine de mètres de la Seine, suivi de près par le commissaire et les deux gendarmes. Sous le petit pont qui surplombe les rails d'un chemin de fer tout près de la rivière de la Durance, le fermier les conduit jusqu'au corps inerte d'une petite fille de 10 ans, le crâne fracassé. L'émotion qui traverse le commissaire est immense. En 30 ans de police, des cadavres, il en a vu des dizaines. Mais le corps massacré, dans une mare de sang d'une jeune enfant, le bouleverse totalement. Et il doit même s'asseoir quelques instants sur une grosse pierre jouxtant le cadavre de la jeune fille pour reprendre ses esprits. Les deux gendarmes restent aussi immobiles, abasourdis par une telle vision. Seul le fermier se tient debout et silencieux derrière eux, de marbre. Il semble complètement insensible face à l'horreur qu'il a constatée. Après quelques instants silencieux pour se remettre de ce qu'il vient de voir, le commissaire s'éveille, se relève et ordonne aux gendarmes d'aller prévenir le reste de la brigade. Les 3 corps sont examinés par les médecins légistes, tous les objets trouvés dans la voiture mis sous scellé, et le fermier est embarqué au commissariat de Forcalquier. Dans la voiture vide, les policiers mettent la main sur les papiers de ses propriétaires. Les victimes sont Anne et Jack Drummond, un couple d'Anglais en vacances dans la région avec leur fille de 10 ans, Elisabeth. Le fermier qui les a menés au corps de la jeune fille dit s'appeler Gustave Dominici et habiter dans la ferme de la Grande Terre à une grosse centaine de mètres de la scène du crime. Le commissaire s'éveille, décide de commencer par l'interroger. Gustave Dominici explique que la veille, le 4 août au soir, il s'est rendu sur une des terres qu'il exploite pour faire pousser des poiriers. Il aperçoit alors le long de son champ le campement des Anglais qui bordent la route nationale. Il prétend être ensuite rentré chez lui, puis s'être couché. Aux alentours d'une heure du matin, il est réveillé par des coups de feu. Ses chiens de garde devant la ferme aboient pour signaler une agitation inhabituelle. L'agriculteur se lève, sort en pantoufles devant la ferme, puis, ne constatant aucune intrusion dans sa propriété, retourne se coucher apaisé. Ouais. Et ensuite, lui assène le commissaire. Vous ne vous êtes pas relevé pour aller voir ce qui se passait ? Gustave Dominici répond dédaigneusement qu'il s'est bien relevé, mais seulement au petit matin pour aller, comme de coutume, nourrir ses bêtes à 5h30. C'est en descendant le talus qui mène au petit pont qu'il découvre le corps de la petite fille, le crâne défoncé. Alors qu'il est en train de livrer sa première déposition, un gendarme de la 9e brigade frappe à la porte du bureau du commissaire. « Commissaire, commissaire !» On vient de trouver une carabine 200 mètres plus loin qui flottait dans la Durance. Immédiatement, le commissaire se lève et fait signe à Dominici de ne pas bouger de son bureau quelques minutes, le temps qu'il aille constater la potentielle arme du crime. La carabine qui a été repêchée est une Rock Ola calibre 30. Ce qui attire tout de suite l'attention du commissaire, c'est le piteux état dans lequel se trouve l'arme à feu. En effet, le guidon du fusil qui sert à viser a été remplacé par une pièce d'un franc de l'époque et, par-dessus tout, il manque la crosse du fusil. Il ne peut donc probablement pas s'agir de l'arme d'un tueur chevronné, mais plutôt de celle d'un bricoleur. Faites inspecter les abords de la Durance, près de l'endroit où on a retrouvé le corps de la petite. Le reste de la crosse doit probablement s'y trouver. Puis, la carabine parlera. S'exclame le commissaire. Et effectivement, l'officier de police a vu juste. Tout près du corps de la petite Elisabeth Drummond, les enquêteurs mettent la main sur la crosse de la carabine Rock Ola trouvée dans la rivière. Il ne reste maintenant plus qu'à trouver son propriétaire. De retour dans son bureau, Edmond Sebey reprend l'interrogatoire de Gustave Dominici qu'il avait commencé plus tôt. Il tente d'en savoir plus sur les activités de la ferme de la Grande Terre qui se trouve à deux pas du lieu où l'on a retrouvé les cadavres. Gustave Dominici apprend au commissaire Sébeil qu'il s'agit d'une exploitation familiale encore tenue d'une main ferme par son père Gaston. Ce dernier s'occupe encore des chèvres avec sa femme, Marie, que les gens du pays ont pris pour habitude de surnommer la sardine. Gaston et Marie ont ensemble 9 enfants, et certains d'entre eux, comme Gustave, habitent encore la ferme de la Grande Terre. Ce clan provençal réuni autour de son patriarche intrigue le commissaire. La ferme ne se trouve finalement qu'à une centaine de mètres de la scène du crime, faisant des Dominici les premiers suspects. Il décide donc de les convoquer tous un par un au commissariat. La première à se présenter est celle qu'on surnomme donc la Sardine. Mère de Gustave et femme de Gaston, cette dernière se montre assez peu loquace et répond brièvement aux questions du commissaire. Elle n'a rien vu, rien entendu, et dormait profondément pendant la nuit du 4 au 5 août. C'est ensuite au tour de Clovis Dominici de se présenter au commissariat. Le fils aîné du clan, qui semble posséder nettement moins d'assurance que son frère Gustave. Ce poseur de rails pour la SNCF n'habite plus à la Grande Terre depuis quelques années. Chétif, presque malingre, il apparaît au commissaire comme étant le vilain petit canard de la famille. Le commissaire Sébeil lui présente l'arme du crime. « Vous reconnaissez cette arme, monsieur ?» À la vue de la carabine Roc-Ola, le visage de Clovis se décompose. Il baisse soudainement les yeux comme pour ne pas avoir à affronter le regard du commissaire. « Eh bien, répondez-moi, » lui assène l'enquêteur. « Je... » L'homme semble hésitant, presque bouleversé. Il reste silencieux pendant quelques secondes et puis subitement, il se reprend, relève la tête et répond « Non, j'ai jamais vu cette carabine de ma vie. » Le commissaire le dévisage quelques instants. Il a la ferme intuition que le poseur de rails est en train de lui mentir, mais il comprend également qu'il n'en obtiendra pas plus pour le moment. Une force supérieure a la main sur les membres de la famille Dominici et les empêche de s'exprimer librement. Cette main de fer, c'est le chef du clan, le vieux Gaston. Sébeil comprend que c'est lui qu'il doit cuisiner pour tenter d'obtenir des renseignements que les autres Dominici ne lui donneront pas. Le lendemain donc, Gaston Dominici est convoqué au commissariat de Fort-Calquier et, le moins que l'on puisse dire, c'est que le commissaire Sébeil n'est pas déçu par le personnage qu'il voit entrer dans son bureau. Gaston Dominici est un petit homme d'à peine 1,60 m de haut, les épaules larges et le visage dur. Il se déplace lentement et arbore une blouse traditionnelle des paysans provençaux. Un chapeau de feutre rond couvre une partie de son regard sévère, ne laissant apparaître que sa longue moustache chevron. Ah, force est de constater que le patriarche en impose, malgré son petit volume. Il en arriverait presque à impressionner le commissaire qui le fait asseoir afin de procéder à son interrogatoire. Ce que n'arrive pas à comprendre, monsieur Dominici, c'est que aucun membre de votre famille n'ait entendu de coup de feu cette nuit, alors que votre charmante ferme se trouve à moins de 200 mètres de là. Vous conviendrez tout de même que c'est étonnant, non ? Le vieux Dominici regarde quelques secondes le commissaire Sébeil et marmonne quelque chose dans sa barbe. « Nun serenistun !» Le commissaire est interloqué. Le vieux fermier lui répond en provençal, un patois que l'inspecteur ne maîtrise qu'à moitié, lui-même étant originaire du Gard. Poliment, il réplique « Vous souhaitez qu'on fasse venir un traducteur, monsieur Dominici ?»« Ne fais venir des gains, gamin, je peux aussi parler ta langue !» grommelle le vieux. L'inspecteur comprend que le chef de famille ne va pas être facile à manœuvrer. Il se joue allègrement de ses questions et lui répond à peu près ce qu'il veut. « Bien entendu que j'ai entendu les coups de feu. 7 coups de carabine à 1h du matin. Ah bah ça vous sort du sommeil. Mais ça se voit que vous n'êtes pas du coin, vous. La vallée est remplie de sangliers traqués par les braconniers. Alors les coups de fusil, J'en entends toutes les nuits et ça ne m'a jamais empêché de me rendormir. Lorsque le vieux Dominici quitte le bureau du commissaire, ce dernier n'est pas beaucoup plus avancé. Il va falloir être pugnace, se dit-il. D'autant plus que l'inspecteur n'est pas au bout de ses surprises.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte une affaire criminelle survenue dans les Alpes en 1952. Un couple de touristes anglais et leur petite fille de 10 ans ont été cruellement assassinés sur le bord de la Nationale pendant la nuit. Les suspects principaux sont une famille d'agriculteurs provinciaux, les Dominici, vivant dans une ferme à 150 mètres de la scène du crime. Le commissaire Sebeil, chargé de l'enquête, tente depuis plusieurs jours de les faire passer aux aveux. Deux jours plus tard, le 7 août, en fin d'après-midi, pour être précis, les obsèques des Drummond ont lieu à Fort Calquier, où ils sont enterrés, dans un cimetière à quelques kilomètres du drame. Un nombre important de gens du coin se rendent à la cérémonie, encore sous le choc du meurtre de la nuit du 4 août. Il faut dire que les journaux ont particulièrement bien fait leur travail. L'enquête a été suivie minutieusement, presque minute par minute, par les journalistes qui ont également permis aux lecteurs d'en savoir un peu plus sur la famille anglaise. Jack Drummond n'est pas n'importe qui en Grande-Bretagne. Ce biochimiste et nutritionniste s'est distingué pendant la Seconde Guerre mondiale pour avoir mis au point des compléments alimentaires surprotéinés, utilisés pour nourrir les soldats anglais sur le champ de bataille. Son invention a eu un tel retentissement qu'il a même été fait lord par la couronne d'Angleterre quelques années après la guerre. Seulement, une rumeur à son sujet pourrait considérablement compliquer l'enquête du commissaire Sebeil. Le couple Drummond serait membre du MI6, le fameux service de renseignement extérieur anglais en qualité de spécialiste en armes chimiques et bactériologiques. Autant vous dire que l'affaire prend une autre tournure. La direction de la 9e brigade de Marseille exigeant de ses hommes de tout mettre en œuvre pour retrouver l'assassin de la famille Drummond. Le commissaire, lui, reste sur sa première intuition. Les habitants de la ferme de la Grande Terre n'y sont pas pour rien dans ce triple meurtre. Il décide donc de changer sa méthode d'investigation. Si les convocations au commissariat ne mènent à rien, alors il ira les interroger chez eux, à la Grande Terre. Plusieurs jours d'affilée donc, il procède à des battues avec ses brigadiers dans le champ des Dominici à la recherche de douilles de carabine ou de traces de sang. Il fait même perquisitionner la ferme à 6 heures du matin dans l'objectif d'harceler la famille pour qu'un de ses membres finisse par craquer et passe aux aveux. Le vieux patriarche, lui, commence à en avoir assez d'avoir dans les pattes cet inspecteur citadin qui met son nez partout et interroge sa femme et ses enfants. Un après-midi, alors que le commissaire questionne son fils Gustave une énième fois, Gaston Dominici sort de la cuisine avec une canne qu'il pointe en direction de l'inspecteur. « Allez, fous-moi le camp, toi. À Kignaproun, tu m'emmerdes. » Les hommes du commissaire Sebeil sont obligés de s'y mettre à trois pour contenir la fureur du vieil agriculteur qui s'en tirera avec un rappel à la loi. Les jours passent et se ressemblent pour Edmond Sebeil. Du côté de la Grande Terre, personne n'a l'air d'avoir l'intention de passer aux aveux et, pour ce qui est des indices, ils sont pour la plupart inexploitables, la carabine ayant passé trop de temps dans l'eau pour identifier des empreintes dessus et trop de curieux ont baladé leurs pattes dans la voiture des Drummond pour en tirer quelque chose. Le commissaire tente alors une nouvelle approche. Il s'éloigne un peu de la ferme des Dominici pour aller interroger leurs voisins. Les Maillet, un couple de paysans qui habitent un gros mât un peu plus haut dans la vallée. Aussitôt dans la maison des Maillet, le commissaire est troublé par la grande armoire en noyer dans le salon qui ne contient pas moins de 7 fusils de chasse. « Dites donc, monsieur Maillet, il vous manquerait pas une rocola dans la cage d'armes ?» interroge le commissaire Sebeil. Une rocola ? Oh, qu'aucun de sort, c'est un engin pour faire la guerre, ça, inspecteur. Pour chasser la perdrix grise. Une simple carabine à verre me suffit largement, à moi. Lui répond narquoisement Paul Maillet. Par contre, une rocola, chez qui en possède une ? Reprend le fermier. C'est mon voisin, Gustave Dominici. Il en a une qu'il utilise très régulièrement. Ah bon, et vous l'avez entendu l'utiliser dans la nuit du 4 au 5 août dernier, lors de l'assassinat des Anglais ? Le questionne le commissaire. Oh bon, ça, je sais pas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il vous a caché certaines choses, ce paillot de Dominici. Sa femme et la mienne ont cancané tout l'après-midi au marché de Forcalquier. Et vous savez ce qu'elle lui a dit ? Eh bien, quand il a trouvé la petite Anglaise, Gustave, elle était encore vivante, hein ? Il est tombé sur elle le long de la Durance parce qu'elle poussait des râles de douleur. Les révélations que vient de faire Paul Maillet au commissaire Sébeille sont un grand pas en avant dans l'enquête. En effet, si cette déclaration s'avère tangible, alors il pourra incarcérer Gustave Dominici pour non-assistance à personne en danger de mort. À peine sorti de la ferme des Maillets, le commissaire retourne à la Grande Terre où il tombe sur Gustave et Gaston en train de trier la lavande. Il interpelle Gustave et lui demande s'il conteste les dires de son voisin. Et, à la surprise totale du commissaire Sébeille, Gustave Dominici avoue. « Ouais, bah oui, c'est vrai, oui. Le bras de la petite Anglaise bougeait encore et elle poussait de petits cris quand il l'a trouvée. » L'inspecteur lui demande ébahi pourquoi il n'a alors rien fait pour lui porter secours. Pourquoi la laisser agoniser devant lui ? Devant le silence de son fils, Gaston Dominici répond à sa place par un proverbe provençal. « Urus copu, c'est pas ça de son vessin !» Autrement dit, « Heureux celui qui peut se passer de son voisin, tout un programme. » L'austérité et l'insensibilité de Dominici face à la scène d'un enfant de 10 ans agonisant fait froid dans le dos d'Edmond Sébeille. Gustave est sur le champ, conduit par le commissaire à la maison d'arrêt de Forcalquier dans laquelle il passera 2 mois derrière les barreaux pour omission volontaire de porter secours à une personne en péril. Oui. Oui, mais voilà. Certes, le commissaire Sébeille a trouvé le moyen de faire tomber Gustave, mais il n'a pas pour autant d'aveu concernant le triple meurtre du 4 août. Les semaines passent et l'enquête piétine, voire même tourne en rond. Le commissaire ne démêle pas le vrai du faux dans les différentes déclarations des membres du clan Dominici, toutes plus contradictoires et absurdes les unes que les autres. Gustave purge ses 2 mois de détention et la vie reprend son cours à la Grande Terre, toujours sous la surveillance et les patrouilles du commissaire Sébeille. C'est finalement plusieurs mois plus tard, en octobre 1953, que l'enquête est relancée par un nouveau protagoniste. Celui-ci ne s'appelle pas Dominici, mais Perrin. Roger Perrin. Surnommé Zézé, il est le cadet d'une des filles Dominici et donc le petit-fils de Gaston. Âgé de 17 ans au moment du meurtre, il habitait, comme le reste de sa famille, dans la ferme de la Grande Terre. Interrogé une nouvelle fois par le commissaire Sébeille, il lâche inconsciemment un renseignement jusqu'ici tenu secret. Il explique en effet que Gustave, après être tombé sur les cadavres des parents Drummond, aurait déplacé le corps d'Anne et lui aurait lui-même recouvert le corps de la couverture trouvée par les 2 brigadiers sur les lieux du crime. À peine sorti de prison donc, Gustave Dominici est de nouveau convoqué au commissariat de Forcalquier. Et une fois de plus, à la surprise générale, il avoue les faits. Oui, il a bougé le corps de Lady Drummond et il a même récupéré certaines douilles de la carabine Rocola sur le sol. Par contre, il réfute toujours avoir tué les Anglais. Le commissaire se dit que ça commence à faire beaucoup de témoignages accablants pour un seul homme. Mais attendez, mon vieux, comment voulez-vous que je vous croie ? Vous omettez dans un premier temps de me dire que vous avez laissé agoniser une pauvre petite. Et ensuite, j'apprends que vous déplacez le corps des victimes de plusieurs mètres. Je suis désolé, cher monsieur, mais vous êtes le principal suspect dans cette affaire, sauf si vous me prouvez le contraire. » Gustave Dominici se redresse sur sa chaise. Il est nerveux. Il transpire à grosses gouttes et ne tient pas en place. Il semble vouloir passer aux aveux. Le commissaire Sebeil n'attend plus que ça pour pouvoir clôturer l'affaire. « Écoutez, » reprend le fils Dominici, « je vais vous faire des aveux. C'est mon père qui a tué la famille des Anglais dans la nuit du 4 au 5 août. Si j'ai dissimulé toutes ces informations et si j'ai été en prison, c'était pour le protéger, mais c'est allé trop loin maintenant. La vérité doit être connue de tous. » Edmond Sebeil s'enfonce dans son fauteuil. Celle-là, il n'avait pas vu venir. Le fils qui balance le père. Décidément, ces Dominici sont pleins de ressources. Convaincu de ne rien pouvoir tirer directement du patriarche, il convoque de nouveau Clovis, le fils aîné de la famille, celui qui lui avait semblé plus fragile lors du premier interrogatoire. Mais il n'a pas besoin de le cuisiner bien longtemps. Le poseur de rails confirme la version de son frère cadet. Oui, c'est bien le vieux qui a tué le couple d'Anglais et leur petite fille à la carabine Rocola. Cette fois-ci, c'est la bonne, se dit Sebeil. Je le tiens, ce margoulin de Gaston Dominici. Ses propres fils le reconnaissent coupable. Au petit matin donc, Gaston Dominici est sorti de chez lui, menotté par deux brigadiers et embarqué, toute sirène hurlante, à la maison d'arrêt de Fort-Calquier.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Je vous raconte aujourd'hui, dans l'heure H, l'affaire Dominici, l'un des plus grands scandales criminels français d'après-guerre. Un couple d'Anglais et leur petite fille ont été abattus sur le bord de la route, près de la ferme des Dominici, une famille d'agriculteurs provençaux. Alors que toutes les suspicions portaient sur le fils Dominici, celui-ci accuse son père Gaston d'avoir en réalité commis le triple meurtre. Sans aucune preuve contre lui, mais accusé par deux de ses fils, Gaston Dominici est arrêté par le commissaire Sebeil et doit maintenant être jugé pour son crime. « 17 novembre 1954. Devant pas moins de 180 journalistes, s'ouvre le procès de Gaston Dominici. Cet engouement de la presse pour l'affaire est copieusement alimenté par la couronne d'Angleterre. En effet, on a tout de même tué un lord, et de surcroît, potentiellement, un membre du MI6. À la barre, le vieux paysan est interrogé pendant de longues heures par le juge et l'avocat général, et il va de nouveau se livrer à un numéro pour le moins invraisemblable. Lorsqu'on le somme de détailler ce qu'il a fait dans la nuit du 4 au 5 août 1952, Dominici, dans un premier temps, se plonge dans un récit inédit. Il raconte qu'au petit matin, il était sorti avec sa carabine dans l'espoir de rapporter un petit quelque chose pour le déjeuner. Au croisement avec la route nationale, il repère la Hillman et le campement des Anglais dont lui avait déjà parlé son fils, la veille au soir. Alors qu'il s'apprêtait à reprendre son chemin, il remarque qu'Anne Drummond est seule en train de se déshabiller derrière l'automobile. Le vieux se dit alors que rien ne l'empêche de rester pour espichouner, comme on dit en Provence, c'est-à-dire l'observer avec perversité, bien caché à l'ombre d'un mûrier. Mais au bout de quelques minutes, il ne résiste plus et se rapproche de la voiture. Il raconte ensuite à la cour d'assises qu'après avoir salué discrètement la touriste anglaise, il se serait embrassé et adonné à quelques batifolages le long de la route. « Comment ? Comme ça, seulement après l'avoir salué ?» s'exclame le juge. « Vous nous expliquez, monsieur Dominici, qu'une femme de lord anglais, héros de précédente guerre, se serait livrée à quelques marivaudages avec un vieux paysan ne bitant pas un mot d'anglais sur le bord de la route à 5 heures du matin. Et tout cela, juste parce que vous l'avez salué. Non, attendez, dites-moi, monsieur Dominici, vous prendrez soin de bien expliquer au gardien de prison par quelle opération du Saint-Esprit mettre une femme dans son lit seulement en la saluant. Ça devrait les intéresser, vous savez. Mais parfaitement, monsieur le juge, reprend l'accusé. Et même qu'elle était plus que consentante, croyez-moi. C'est sur quoi, après tout ça, le mari Drummond débarque. Il était parti pour faire sa toilette un petit peu plus loin. Elle voit la foudrage à la vue de sa femme dans les bras d'un gaillard comme moi. Il hurle des phrases dans sa langue, mais moi j'y comprends rien, moi, monsieur le juge à l'anglais. Alors je le menace avec ma carabine pour tenter de le dissuader de me cogner. Et puis le coup est parti tout seul. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Normalement, je maîtrise bien ma carabine, mais là, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. En disant ces mots, Gaston Dominici s'effondre à la barre, quasiment sanglotant. Mais le juge se dit que c'est le moment pour enfoncer le clou et d'obtenir des aveux pour le meurtre d'Anne et Elisabeth Drummond. Et j'imagine, monsieur Dominici, que le coup est également parti tout seul pour la mère et la fille Drummond, non ?
Ah non, monsieur le juge, répond Gaston.
À la vue de son mari étendu sur le macadam, madame Drummond s'est mise à hurler. Alors moi, j'ai paniqué, j'ai pensé qu'elle allait alerter toute la région, alors j'ai tiré aussi sur elle, pour la faire taire. Puis ensuite, j'ai vu la petite qui courait le long de la route pour s'échapper. J'ai cru qu'elle allait prévenir les gendarmes. Alors je l'ai poursuivie jusqu'au petit pont et je l'ai assommée d'un coup de crosse de fusil. Mais je voulais pas la tuer, hein, monsieur le juge, je vous le jure.
Voilà donc, pour la première fois, des aveux en bonne et due forme de la part de Gaston Dominici. Dans la salle d'audience, le commissaire Sébeil exulte. Plus de 2 ans qu'il attendait ces mots. Seulement voilà, là où toute l'affaire aurait pu s'arrêter, là où Gaston Dominici aurait pu être envoyé en prison jusqu'à la fin de ses jours, un dernier rebondissement va venir bousculer le bon déroulement du procès. En effet, le dernier jour de l'audience, l'avocat général prononce son réquisitoire et demande pour le père Dominici la peine de mort. Avant de faire évacuer la salle pour que les jurés rendent leur verdict, le juge demande à Gaston s'il a un dernier mot à dire avant que sa peine ne soit prononcée.
Ouais, monsieur le juge. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. C'est pas moi qui ai tué les Drummond, je vous le jure. Le véritable assassin, c'est mon fils, c'est Gustave.
À ces mots, la salle est littéralement ébahie. L'agriculteur provençal revient sur tout ce qu'il a avoué la veille à la barre.
Monsieur les jurés, reprend Dominici. J'ai été cuisiné pendant des heures et des heures dans des commissariats et des salles d'audience. Toutes les accusations allaient à mon encontre. Je suis le coupable idéal. Cette histoire de coucherie entre la Lady Drummond et moi, c'est de la fadaise qui sort de la bouche de l'inspecteur qui m'a interrogé. Voilà, absolument, messieurs. C'est Monsieur Sébeil qui m'a soufflé cette histoire lors de l'interrogatoire pour me trouver un motif au meurtre. Il m'avait déjà interrogé pendant 5 heures, alors moi, j'ai fini par craquer. J'y croyais presque, moi, à cette histoire.
Et non, Sébeil est alors convoqué à comparaître à la barre. Et figurez-vous que le commissaire va confirmer les dires de Dominici. Oui, c'est bien lui qui a soufflé cette histoire de relation sexuelle avec madame Drummond, ne trouvant rien d'autre comme motif pour l'inculper. Mais ça ne change rien à l'enquête. Gaston Dominici est bien le meurtrier des Anglais et il le sait, il en est sûr, affirme-t-il.
Oui, mais comment se fier à la parole d'un inspecteur qui tourne en rond depuis plusieurs années, qui est hanté par un crime qu'il n'a pas réussi à résoudre, qui s'acharne sur une famille de fermiers aux airs de coupables idéaux, allant même jusqu'à inventer un faux motif de crime.
Et bien pourtant, les jurés vont s'y fier à cette parole. Au bout de 12 jours d'audience, et il faut bien le dire, malgré l'absence de preuves, Gaston Dominici, 77 ans, est déclaré coupable et se voit condamné à mort le dimanche 28 novembre 1954. Au moment où il entend sa condamnation proclamée, le vieux paysan entre dans une furie infernale. Il hurle dans toute la salle d'audience.
Oh, les salauds! Ah, les salauds, les fangoules, ils ont réussi leur coup. Ben, je vais vous dire, hein, ils sont tous coupables, ces misérables. Ce sont eux qui les ont tués pour pouvoir ensuite m'accuser et m'envoyer à la potence. Pour pouvoir récupérer l'héritage que j'ai et devenir propriétaire de la grande terre. Bande de tromblons, misérables!
Il faut, tenez-vous bien, 3 brigadiers pour le contenir et l'extraire de la salle d'audience qui, pour le dernier jour du procès, est tellement pleine à craquer qu'on a dû installer des haut-parleurs dehors pour permettre à la foule de ne rien manquer. Le meurtrier trouvé, jugé et condamné, on aurait pu imaginer que la ferveur autour de l'affaire Dominici finirait par redescendre. Oui, seulement voilà. Dans les jours qui suivent le procès, nombre de rédactions s'agitent un peu partout en France. En effet, les journalistes présents au procès s'interrogent sur la valeur de ce procès. Comment pourrait-on condamner à la peine capitale un homme sans preuve matérielle ? Les sondages sont effectués un peu partout en France et l'opinion publique est presque unanime. Cette enquête de police a été bâclée. Il faut dire que pour beaucoup de Français de l'époque, Gaston Dominici incarne le patriarche bon vivant, travailleur au physique rassurant, en opposition avec ses nouveaux citadins sophistiqués dont on ne sait jamais vraiment ce qu'ils pensent. De leur côté, les avocats de Gaston Dominici s'agitent également en tentant de faire de cette histoire un véritable conflit social et politique. Et cette manœuvre fonctionne à merveille. Peu de temps après, l'affaire Dominici remonte jusqu'aux plus hautes sphères de l'État français. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain François Mitterrand, décide donc de nommer une mission d'information pour tenter d'y voir un peu plus clair. 2 magistrats parisiens sont donc envoyés en Provence pour interroger une nouvelle fois le père Dominici. Dans sa cellule, l'accusé explique au magistrat qu'il est certain d'avoir surpris une conversation entre son fils et sa belle-fille le soir du 4 août 1952. Ces deux derniers parlaient d'une boîte à bijoux qu'ils auraient vue dans la voiture des Drummond. Ils les auraient aussi entendus élaborer un plan pour les tuer et dérober la boîte. Ouais, un peu tard pour faire une telle déclaration, se disent les magistrats. Pourquoi ne pas avoir évoqué cette conversation lors du procès ? Toujours est-il que la mission d'information rend ses conclusions en octobre 1955. Les voici. Gaston Dominici n'a sans doute pas commis le triple meurtre seul. Pour autant, les magistrats ne parviennent pas à identifier avec qui il aurait agi la nuit du 4 au 5 août 1952. Le rapport parvient même jusqu'au bureau du président de la République, M. René Coty. Devant l'ampleur de cette affaire, la prolifération des théories fumeuses et le risque d'erreurs judiciaires historiques, le chef de l'État prend une décision arbitraire. Il fait le choix de gracier Gaston Dominici, le sauvant donc in extremis de la guillotine. Sa peine est néanmoins commuée en réclusion à perpétuité. Malade, le vieux paysan sera finalement libéré 5 ans plus tard, en 1960. Il sera alors assigné dans sa nouvelle résidence de Montfort dans les Alpes de Haute-Provence, dans laquelle il mourra en 1965. Aujourd'hui encore, le degré d'implication de Gaston Dominici dans le triple meurtre de la famille Drummond n'a pas été établi et les coupables n'ont jamais été identifiés. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Jules-Adam Mindras.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.